finalement, on a cette idée que le motif finalement va se faire espace par lui-même et cerner le spectateur de toutes parts. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'objectif de Jeremy Bentham, souligné par Foucault, comme ça, de contrôle de son environnement par un spectateur, un observateur centralisé, et finalement se retourne un peu contre lui, c'est-à-dire que le motif, au lieu de se laisser dominer et envisager par le regard, maîtriser, va finalement se retourner contre l'observateur et sursaturer comme ça sa perception, de manière à l'évincer finalement de l'espace. On voit ici évidemment le caractère comme ça coercitif de l'œuvre d'art optique. Il faut savoir au passage que Bridget Riley n'a fait qu'une œuvre environnementale. Hein. Elle a pensé justement en 1963 qu'elle était allée trop loin, justement dans la littéralité. Il fallait que la surface elle-même, à partir uniquement d'illusions, comme ça, suggère une troisième dimension, en tout cas une épaisseur supplémentaire du tableau. Alors, je reviens sur cet agrandissement d'une ville contemporaine, une première version, qui montre comme ça cette surface anaglyphique, ce tiret anaglyphique. Il faut savoir aussi que, comme on n'est pas équipé des lunettes adaptées, évidemment, il y a une sorte de tressautement comme ça, il y a un effet qu'on pourrait qualifier d'effet de parallaxe, qui rend les formes sautillantes comme ça, et qui finalement crée une sorte d'épaisseur créée par le décalage entre deux fois le même motif finalement. On a une sorte de glissement comme ça, que l'œil va en permanence chercher et ajuster en vain, et qui va laisser aussi penser à une erreur comme ça d'impression, ce qui est assez notable, ce que j'ai retrouvé notamment chez Guillaume Millet. Alors évidemment, ça paraît très difficile de voir ici. On voit bien sur l'écran, mais assez mal projeté, c'est très subtil. Guillaume Millet, en fait, reproduit ces formes noires que l'on voit assez distinctement dans ce diptyque d'une autre couleur, c'est-à-dire que vous allez avoir exactement la même forme qui va être décalée de quelques degrés vers le bas. Vous voyez ici, on voit ici un léger cerne coloré, en fait, hein, rouge-vert qui se dégage, une sorte de halo. Mais en fait, quand on est face à l'œuvre, c'est assez clair, ce sont des petites lignes colorées de chaque côté qui vont comme ça démultiplier le motif, qui, même s'il paraît très clair comme ça, eh bien finalement recèle des subtilités, des vibrations qui font penser, qui font douter finalement du contrôle de l'œil sur les formes claires, en fait, hein, ces contrastes a priori très clairs entre le noir et le blanc, qui font comme ça, entre le fond et la forme, qui fondent finalement notre perception. Alors, je passe évidemment aussi très rapidement sur le fait que c'est un diptyque et que sa pleine appréhension est elle aussi très difficile. Hein, impossible d'être totalement en face de l'un de la même manière qu'on est en face de l'autre simultanément. L'artiste joue en permanence comme ça de l'impossibilité d'envisager les deux parties d'un diptyque qui, pourtant identiques, ne seront jamais perçues de la même manière. J'en viens directement à cette œuvre que l'on a brièvement abordée tout à l'heure avec l'exposé de Michel Gauthier. Ici, donc, c'est une vue générale de la pièce. Je pense que tous les gens ici présents ont pu la découvrir. Cette pièce, comme ça, quand on y pénètre, pendant quelques secondes, paraît totalement immaculée, hein, comme après le passage des peintres avant un accrochage. Et très rapidement, l'œil va réaliser finalement l'existence de l'œuvre, en fait, en s'approchant notamment des murs et qui sont recouverts de ce papier peint dont je ne vais pas développer la description. Je vais toutefois rappeler que ce papier peint est un scan, en fait, c'est une sérigraphie réalisée à partir d'un scan fait d'un véritable écran de projection cinématographique et que ces petits trous d'un millimètre, séparés de 4 millimètres entre eux et placés en quinconce, finalement, avaient pour objectif, comme ça, de laisser passer le son. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on est passé, finalement, d'une œuvre perforée, comme ça, d'un support perforé, un support plan, un vulgaire papier peint, comme ça, qui, malgré tout, va être doté de puissants effets, de puissantes propriétés psycho-physiologiques, hein, pour qualifier ces phénomènes qui se passent, finalement, entre la rétine et le cerveau, qui n'existent pas en réalité, mais qui finalement surviennent dans cet espace intermédiaire qui est celui de la perception. Pour ceux qui l'ont pénétré, moi je m'en suis rendu compte tout à l'heure aussi, l'œuvre semble rosée. Hein. Alors il y a une sorte de couleur étrange qui émane, qui pour le coup n'existe absolument pas. Hein. C'est une after color, une après-couleur, finalement une couleur qui n'existe pas matériellement, mais qui est créé comme ça par cette surabondance de sollicitations optiques qui va exciter comme ça la rétine et générer un effet perceptif assez fort. Donc il y a une sorte, c'est assez violacé comme ça, c'est assez étrange, alors que tout ça est strictement blanc. Je voulais aussi rappeler finalement l'aspect comme ça atmosphérique que revêt une telle œuvre. L'idée comme ça que l'on est comme projeté un petit peu comme au milieu d'une œuvre d'Anne Veronica Johnson, ce qu'on a évoqué à plusieurs reprises tout à l'heure, on est projeté comme ça au milieu d'une nuée, d'un nuage comme ça, qui finalement souligne indirectement une des obsessions de l'artiste qui est celle du paysage, de la météorologie et des conditions climatiques et des phénomènes atmosphériques. Hein. C'est extrêmement fort, une œuvre comme ici Énergie cinétique. Montre un peu son double ancrage, à la fois dans la lignée de l'art cinétique, mais aussi dans un rapport comme ça aux phénomènes et à leur captation. Leur captation qui finalement va résonner avec leur existence réelle. Et ici, comme vous le voyez, ce sont des papiers qui ont été comme ça, qui ont reçu une pluie de grêlons. L'artiste me corrigera si je me trompe dans la description, évidemment. Des papiers qui ont reçu des grêlons et qui sont classés comme ça, de gauche à droite, par ordre de densité d'impact. Hein. Vous voyez, on part de la gauche avec des papiers entièrement sombres, en fait, qui vont s'éclaircir avec l'accumulation des grêlons sur la droite. Alors, ce qui est très intéressant, hein, on a évidemment un renvoi à pas mal de choses, je n'ai pas été rechercher les images, peut-être certains d'entre vous voient l'œuvre de Ellsworth Kelly, scène qui fonctionne sur un système comme ça de gradation et de démultiplication progressive, rationnelle des carrés noirs et des carrés blancs, qui crée comme ça une espèce de paysage indirectement, ici finalement dans une problématique assez proche. Je pensais aussi à ces images qui sont des empreintes d'impact finalement, qui font penser aussi à ces petits trous réalisés mécaniquement dans la trame de l'écran cinématographique qui a été utilisé comme modèle. Encore une fois, on part finalement d'un ready-made, hein, on part un petit peu comme pour l'image de Le Corbusier, le projet de Le Corbusier, de quelque chose de préexistant qu'on va finalement utiliser dans d'autres circonstances et pour d'autres effets, sachant qu'évidemment un écran de projection va justement servir de surface neutre comme ça pour accueillir toutes les potentialités de l'image. Ici évidemment ce n'est pas le cas, aucune image ne sera projetée sur ce papier peint, mais évidemment nous serons confrontés à des effets perceptifs assez forts qui sont évidemment renforcés au fur et à mesure qu'on s'approche ou on s'éloigne de la surface. Hein. Vous allez avoir j'ai pris un agrandissement, hein, mais qui ne rend pas bien compte évidemment de ça. Je pense qu'il faut être confronté de manière réelle à l'œuvre pour en ressentir les effets fortement. Ici, donc, l'œil peine à faire le point, en fait. Il y a un système, comme dans un ensemble de micro-stimuli, comme ça, sur la surface, qui va empêcher le spectateur d'arrêter son attention, ne serait-ce que sur un des points. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que sans vouloir forcément, mais en s'inscrivant quand même dans une lignée opticaliste, Évariste Richer va reproduire quasiment à l'identique une œuvre de qui s'intitule Static 2 de Bridget Riley de 1966, hein, d'un format quand même assez conséquent, on parle de 2m30 sur 2m30. Ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi les différences qui sont flagrantes. Chez Bridget Riley, on a l'impression d'être confronté à une série de points, mais il n'en est rien, hein. Ce sont en fait de petites ellipses qui vont tourner sur leur centre progressivement et finalement créer, entraîner l'image dans une dynamique légèrement différente. Mais toutefois, on peut s'empêcher de voir une similarité assez forte entre les deux œuvres. Alors, ce que j'ai trouvé notable aussi dans ce type d'installation, c'est que Évariste Richer est mis à proximité dans une autre salle cette série de sondes, hein, sondes 1, 2 et 3, qui sont donc des sondes d'avalanche, comme pour nous rappeler finalement là, l'idée d'une profondeur comme ça du champ visuel, et que ce que l'on a finalement sur les murs de l'œuvre écran, que je vous ai montré à l'instant, ce qu'on en a finalement, c'est une sorte de neige visuelle, une sorte de matière à la fois bidimensionnelle et tridimensionnelle, en tout cas entre les deux, que ces sondes finalement permettraient de fouiller, de mesurer, de quantifier, d'apprécier d'une certaine manière. Et on repense évidemment on en parlait tout à l'heure encore avec l'artiste, aux théories de Descartes sur le bâton de l'aveugle, comme ça, qui va permettre de mieux comprendre le lien entre le visuel et le régime sensoriel au sens plus large. Donc évidemment, ces sondes qui sont comme ça de simples ready-made vont finir comme ça par nous faire comprendre qu'un des enjeux essentiels de ce type d'œuvre, c'est donc l'épaisseur du ce que Duchamp appelait l'inframince, hein, ce que Mondrian appelait l'espace maigre, mais finalement là, l'épaisseur comme ça de la surface, sa profondeur potentiellement infinie, évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser aussi à on ne peut pas s'empêcher de penser non plus à excusez-moi, j'ai perdu le fil. Pardon, à notamment, mais aussi, évidemment, en montant encore plus loin, à Fontana, par exemple, hein, avec sa série Concerto Spaziale, où l'artiste, comme ça, non seulement fendait la toile, mais aussi la crevait par endroits, pour finalement laisser le regard accéder à l'infini qui était ouvert par cette procédure même. Donc évidemment, ici, je pense que c'est aussi une des raisons, c'est aussi un des aspects qui a intéressé l'artiste, un des aspects qui a utilisé l'artiste à utiliser ce ready-made, hein, cet écran de projection cinématographique, c'est justement cette ouverture. L'artiste me confiait il y a quelques jours à peine qu'il avait envisagé un instant faire des cartes postales, de trouer de la même manière des cartes postales d'images du cosmos, en fait, hein, pour, me disait-il, laisser finalement sourdre le bruit cosmique à travers ces images, comme ça, finalement, assez triviales. Alors, je passe tout de suite, en fait, à l'œuvre qui est finalement le cœur, hein, de ce dispositif, hein. C'est une autre œuvre, hein. Elles sont assemblées ensemble, et je trouve que pour le coup, elles fonctionnent extrêmement bien, en symbiose même l'une avec l'autre. C'est donc l'œil du perroquet, donc ce petit cadran en fait de 10 cm sur 10, placé sur un des murs de la salle qui accueille l'œuvre écran. Ce petit système est en fait ce qu'on appelle un horizon artificiel. C'est utilisé dans de nombreux avions, pas tous, mais de nombreux avions, pour finalement donner au pilote de l'avion un sens finalement non visuel, mais gravitaire de la place de l'horizon dans l'espace. Ce qui est intéressant, c'est que Évariste Richer a comme dévoyé ce procédé, hein, il l'a installé dans le mur et finalement a modifié le moteur de telle sorte que cette petite sphère en fait, placée au centre du dispositif va non plus osciller en fonction des déplacements d'un supposé aéronef, mais va entrer en rotation permanente à une vitesse qui est celle qui précède en fait la fusion des couleurs. Il faut savoir que les trois couleurs que nous avons là en fait sont celles du sol, brun pour le sol, blanc pour la ligne d'horizon et bleu pour le ciel. On a une sorte de comme ça d'abstraction paysagère radicale qui va finalement entrer en rotation comme ça et finalement nous entraîner dans un vertige et qui, comme le disait tout à l'heure Michel Gauthier, nous finalement renforce le vertige perçu devant par la confrontation avec les murs. Donc finalement, une œuvre comme celle-ci nous renvoie évidemment à toute la série des rotoreliefs et autres œuvres rotatives de l'art optique et cinétique, mais elle nous rappelle aussi que le vertige vient du latin vertere, tourner. On est vraiment comme ça dans une rotation, une perte des repères, le haut, le bas, etc. Et ça, c'est tout à fait crucial. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que des œuvres comme ça résonnent avec d'autres, évidemment, des années 60, hein, le principe de la rotation d'un motif abstrait, c'est une des grandes lignes comme ça de l'art optique et cinétique. Et cette œuvre de Karl Gerstner, qui logiquement tourne, voilà, c'est une œuvre qui s'appelle Institute E-Motion Sphere, de 1964-67, que j'ai eu l'occasion de filmer avec de très modestes moyens dans l'exposition Les moteurs, en 2005 au Musée d'art moderne et contemporain de Strasbourg, l'exposition organisée par Arnaud Pierre. Cette petite vidéo que je vous remets finalement montre comme ça Karl Gerstner, un des protagonistes de la tendance cinétique, comment Karl Gerstner va finalement faire entrer en rotation selon différents axes, différents éléments abstraits, une sorte de maelstrom comme ça, coloré, vertigineux et assez obsessionnel. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, peut-être on en voit un petit peu sur la droite une main en fait, qui règle la vitesse de rotation de ces éléments. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on constatait tout à l'heure dans la salle que de nombreux spectateurs en fait, ont touché cet horizon artificiel, ont touché la petite molette jusqu'à quasiment la casser. En fait. Je pense qu'aussi ce type d'œuvre, comme ça, ce type d'objet, dans un contexte purement abstrait et dématérialisé, attire le regard et même la main. Et d'une certaine manière, c'est une des conséquences involontaires et indésirables hein, de la persistance de l'objet finalement au sein d'ensembles dématérialisés. Alors, je voulais montrer aussi cette œuvre de 2005 intitulée Niveau à bulle d'Évariste Richer, moins connue, mais qui a cet intérêt immense de résonner avec ce dévoiement comme ça de ce système de stabilité finalement qui est l'horizon artificiel. Comme vous le voyez, ce niveau à bulle ici est parfaitement circulaire. Hein, vous voyez, il est fait exactement dans les mêmes matériaux et avec les mêmes règles, hein, si ce n'est la linéarité qu'un niveau à bulle normal. Et comme vous voyez, les bras comme ça se referment en forme de cercle et ce niveau à bulle, évidemment, serait bien incapable de fixer quelque horizontalité que ce soit. Donc évidemment, on est un petit peu dans ce même principe comme ça, d'un système comme ça perceptif du haut et du bas qui devient tout à fait perturbé. Ça m'a évidemment renvoyé à Maurice Merleau-Ponty, hein, qui dans son fameux ouvrage Phénoménologie de la perception, publié en 1945, effectuait en fait des expériences sur le haut et le bas. Il évoquait notamment l'impression temporaire que ces sujets ressentaient quand ils étaient face à un paysage inversé par le port de lunettes équipées de miroirs. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que l'effet le plus notable en fait, de cette inversion comme ça, du haut et du bas, c'était l'impression de sa propre inversion par rapport au monde. Je pense que c'est tout à fait crucial. Hein. Oui, c'est l'impression comme ça d'être soi-même à l'envers face à un paysage pivoté à 180 degrés. Alors, ça c'est tout à fait crucial et cette perturbation, pas seulement l'inversion, j'y reviendrai plus tard, mais la perturbation comme ça de la régularité de l'horizon, d'autres artistes comme Olafur Eliasson ont pu également y travailler. Ici, c'est une œuvre qui était présentée en 2002 lors de l'exposition monographique de l'artiste au Musée d'art moderne de la ville de Paris. Vous aviez donc comme ça deux projecteurs, de lanternes lumineuses qui projetaient sur la partie incurvée du musée, cet immense mur incurvé, une double ligne d'horizon, elle-même instable en fait, en variation, en oscillation permanente, mais très légère pour le coup, un peu à la manière du fonctionnement normal de l'horizon artificiel utilisé par Évariste Richer. Ici, évidemment, c'est l'unicité même de cette ligne d'horizon qui est remise en question. Il y a deux lignes, en fait, qui comme ça, vont osciller chacune de manière indépendante de l'autre. C'est quelque chose sur lequel Olafur Eliasson est revenu à quelques reprises, notamment dans une œuvre récente, Your Negotiable Panorama, de 2006, où l'on voit un dispositif, une sorte d'une autre lanterne lumineuse, cette fois-ci placée au centre d'un dispositif pleinement circulaire. Ce dispositif, techniquement assez complexe, va projeter dans l'espace tantôt une ligne totalement régulière, même si elle est de l'ordre du halo, comme ça, avec une sorte de densité lumineuse, va transformer cette ligne en une variation, quasiment un paysage montagneux, un relief irrégulier, extrêmement instable. Évidemment, le spectateur placé au milieu de ce dispositif interrompra par endroits le faisceau, mais aussi verra ce seul repère spatial, le reste de la pièce étant dans l'obscurité, donc verra ce seul repère spatial perturbé dans sa stabilité et sa linéarité. Donc, alors, ce qui est intéressant, c'est l'expérience de Merleau-Ponty, hein, qui s'appuie aussi sur les expériences de Wertheimer, hein, sur le même sujet. En fait, cette expérience de Merleau-Ponty lui permet en fait, de penser l'expérience de l'espace, je cite, comme le système indivisible des actes de liaison qu'accomplit un esprit constituant. C'est-à-dire que l'espace, finalement, n'est rien en soi, mais évidemment tout pour soi. C'est uniquement ce système relationnel entre un sujet et finalement un environnement qui va définir l'espace. Je crois que dans le cadre de cette exposition et de ce séminaire, c'est une notion qu'il est intéressant d'entendre définie par Merleau-Ponty. Alors, je voulais vous montrer en fait cette image d'Évariste Richer, qui est en fait une simple photographie agrandi au format 120 par 170 cm d'une carte, d'une triviale carte postale représentant une montagne. Alors cet agrandissement est à l'échelle finalement au format d'un tableau et évidemment cette inversion qui saute aux yeux va avoir un effet extrêmement fort sur un plan perceptif pour les mêmes raisons évoquées tout à l'heure, c'est que cet élément qu'est la montagne et même un massif montagneux, hein, comme gage de stabilité et d'ancrage comme ça gravitaire dans le sol, on peut difficilement faire plus flagrant. Et bien ce motif inversé comme ça va jouer très fortement sur notre manière d'envisager notre la justesse de notre position gravitaire d'une certaine manière. Hein. En tout cas, l'artiste va aller questionner tout cela. Alors, ça m'a renvoyé évidemment à Rodney Graham et avec cette série entamée en 1980 des portraits d'arbres, hein, les tree portraits, que l'artiste soit tire sur papier photo standard et encadre tel quel, ou tire sur papier de plus mauvaise qualité et placarde dans les rues à droite à Toronto, c'est une œuvre de 2007. Sur un des piliers d'un pont. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'évidemment, chez Rodney Graham, le portrait est fait à la chambre, à l'envers, hein, directement, c'est-à-dire que c'est la chambre elle-même qui est inversée, Et d'une certaine manière, il n'y a pas eu d'inversion de l'image a posteriori, c'est fait sur, pendant l'enregistrement. Évidemment, on retrouve ces mêmes, cette même impression vertigineuse, comme ça, d'être soi-même dans le mauvais sens. Je ne pouvais évidemment pas m'empêcher de montrer différents exemples comme ça de travaux sur l'inversion comme ça du sens de la gravité. Ici, Bruce Nauman, Revolving Upside Down de 1968, une vidéo, on le voit comme ça arpenter non le sol mais le plafond de son atelier. Ça fait partie des, films, des nombreux films réalisés dans son atelier. Je pouvais aussi pas m'empêcher non plus de montrer un exemple d'une Sky Piece hein, de James Turrell. Ici, c'est Sky Space, installé au Muséum d'Art Moderne à Salzbourg, qui est une œuvre de 2006, en fait, qui s'inscrit comme ça dans une série que tout le monde connaît, donc c'est Sky Pieces, mais que je voulais montrer, notamment pour. Suite à cette anecdote en fait, que j'ai recueillie en interviewant l'artiste, où il me parlait comme ça de sa passion du pilotage d'avion. Il en possède un lui-même, et c'est la prégnance, l'importance de du vol la tête en bas. Et une des idées, et c'est ce qu'il avait dit, c'est ce qu'il m'avait présenté comme étant une des clés de compréhension de ce type de dispositif. C'est-à-dire qu'on voit le ciel par en dessous, et d'une certaine manière, on pourrait être au-dessus. C'était quelque chose de cet ordre-là qu'il cherchait finalement à faire ressentir à ses spectateurs. L'idée comme ça d'une inversion du paysage. Je reviens donc à cette œuvre d'Évariste Richer, donc Écran, pour rebondir sur différents exemples, hein, toujours encore une fois ancré dans les années 60, hein, qui étaient donc les années où ont eu lieu le plus d'expérimentations sur les surfaces, comme ça, sur les systèmes de trames, de grilles, hein, évidemment dans la prolongation de la grille moderniste de Mondrian. Je ressortis l'exemple d'Adam Aino, qui est tout à fait intéressant, parce qu'on a finalement ce même principe de percer comme ça dans un écran, mais ici évidemment dans la superposition de deux écrans, de deux grilles comme ça, hein, ces grilles que Molinagi appelait les grilles ivres, qui finalement provoquent comme ça des jeux d'optique, des jeux de trame, des effets de moiré extrêmement forts à partir d'une composition finalement totalement absente. Un petit peu comme dans le papier peint d'Évariste, on a une absence comme ça de distinction de fond de forme, une dialectique comme ça assez constante. Qui vient interroger finalement notre système perceptif usuel. Une autre œuvre d'Évariste toujours, intitulée Slow Snow, c'est un diptyque hein, constitué de Day Snow à gauche et de Night Snow à droite, fonctionne sur un principe assez similaire. Alors je vous parlais tout à l'heure de reprise du motif de l'écran cinématographique, ici on a quelque chose du même ordre. Ici, c'est la reprise de la grille du test d'Hermann, hein, un test de psychologie de la perception, c'est un des tests c'est une des illusions d'optique les plus connues. Hein, à l'intersection des lignes blanches apparaissent des points noirs, évidemment, qui n'existent pas, et à l'intersection des lignes noires apparaissent des points blancs qui eux-mêmes n'existent pas. Donc, évidemment, on connaît tout ça, ce motif va être pris tel une peinture, hein, réalisé à la peinture sur une toile. Il y a vraiment l'idée comme ça d'un ready-made, hein, la volonté comme ça de ne pas aller plus loin dans la composition et de garder finalement le côté totalement abstrait et encore une fois atmosphérique, climatique, phénoménologique, où évidemment ces points qui apparaissent, ces points virtuels, finalement vous représentez, hein, je pense qu'on peut employer le mot, vous représentez finalement une neige tombant en slow motion d'une certaine manière à la surface de la toile. Donc évidemment on est encore une fois dans un rapport au paysage, au phénomène atmosphérique qui est assez prégnant. Alors évidemment une œuvre comme celle-ci m'a renvoyé automatiquement à certains travaux de Victor Vasarely, hein, je pense à l'œuvre qui est conservée, l'œuvre de gauche Supernova, de 1959-1961, qui est conservé à la Tête Moderne, qui présente finalement une même base, mais dans laquelle, évidemment, Victor Vasarely n'a pu s'empêcher de composer des éléments en faisant varier les modules constitutifs. Hein. Vous voyez évidemment des effets comme ça, mais qui sont clairement d'ordre immatériel, hein, fluctuant, variant, presque atmosphérique, encore une fois, pour employer ce mot à nouveau. À droite, Yayoi Kusama, Net Obsession, c'est donc cette série commencée à la même époque que le Victor Vasarely de la gauche, qui, comme ça, présente des trames de points extrêmement vibrantes, hein, qui vont finalement entraîner le regardeur dans une sorte de danse comme ça permanente, une recherche permanente d'un point de focalisation. Ce qui est intéressant, c'est que l'œuvre d'Évariste Richer écran justement, une fois qu'elle est associée à cet horizon artificiel, et finalement cette œuvre-là va, l'horizon artificiel va vite ancrer le regard, il va vite offrir comme ça, en tant que cible rotative, qu'objet localisable, il va offrir finalement un réconfort assez rassurant, pas pour longtemps évidemment, parce qu'une fois confronté à la rotation de cette sphère, on va vite entrer dans un autre système vertigineux, mais finalement il y a l'idée comme ça de composition chez Yayoi Kusama ou chez Évariste Richer, une composition sans objet central, une grille all over, sans possibilité de focalisation. Je vais finir en fait sur certains renvois en fait à Konrad Fiedler, en fait, dont j'ai retrouvé dans le texte du jugement des œuvres d'art plastique, hein, écrit en 1876, certains éléments assez éclairants dans le cadre de cet exposé. Je le cite, nous pouvons dire qu'une chose existe que si elle a pénétré notre conscience connaissante. Hein, on parle de pénétrer la conscience connaissante, et chez Évariste Richer, on parlait aussi de la. Du caractère pénétrant finalement de la conscience dans cette épaisseur de l'image. Si, comme Fiedler, Richer souligne l'impossible mainmise de la conscience sur le monde des apparences sensibles, ses travaux en fait nous en rappellent la possible et nécessaire expérience. Je cite Fiedler à nouveau, une des intuitions qui permet à l'homme de pénétrer dans une sphère supérieure d'existence spirituelle est celle par laquelle il perçoit, dans sa richesse infinie et sa complexité changeante, l'apparence visible des choses qu'il avait acceptées jusqu'alors comme simples et évidentes. Il poursuit. L'activité artistique commence au moment où l'homme se trouve confronté à l'apparence visible du monde comme à une énigme infinie. L'apparence visible du monde comme à une énigme infinie. Évidemment, il s'agit pour Fiedler, je le cite encore, de lutter contre l'atrophie de la conscience inaugurale de l'homme, à laquelle il s'était éveillé en entrant dans la vie, vous voyez, ni plus ni moins. Donc en fait, cet objectif comme ça de modification de la densité du visible, de travail sur la densité du visible, je pense, fait finalement le lit, hein, de certains travaux d'Évariste Richer, comme on a pu le voir, et aussi finalement nous invite dans l'épaisseur de l'œuvre aussi bien qui nous en éloigne. Hein. C'est un petit peu un des objectifs de l'œuvre Ellipse-Eclipse de 2007, hein, qui consiste tout simplement au placement de deux réflecteurs de cinéma devant des fenêtres dans l'espace d'exposition. Cette position de réflecteur ayant pour objectif de renvoyer la lumière venant de l'extérieur vers l'intérieur, de la renvoyer donc vers l'extérieur à nouveau, une sorte d'aller-retour comme ça permanent entre la perception et le phénomène qui est, je pense, constitutive de ces travaux et qui finalement en démontre la nécessité dans ce contexte précédemment évoqué par Michel Gauthier. Voilà, écoutez, je vous remercie.
Je retiendrai au moins une idée de cette intervention sur qui serait celle que vous avez développée à partir notamment de la pièce présente ici, un écran, mais également à partir de la pièce Une ville contemporaine qui joue de la technique de la glyph pour brouiller finalement la clarté, la linéarité de la ligne moderniste finalement. Et qui la trouble donc par en introduisant un doute à propos donc de ce contrôle oui, de l'œil sur les formes claires du modernisme. Le regard étendu à 360 degrés finalement aussi est proche aussi bien, je crois comme vous l'avez montré, du vertige que du contrôle sur le visible. Et tout ce que vous avez présenté était finalement tout à fait dans la ligne de ce vers quoi nous avons entraîné les discussions de tout à l'heure, à savoir qu'on a là, à travers l'œuvre de Ernst Trichet, un autre symptôme, il me semble, de la fin de la transparence, après l'écroulement d'un certain nombre de mythes modernistes, qui avait été une thématique que vous avez commencé à soulever tout à l'heure avec Michel Gauthier. Je propose que nous entamions en fait. Pardon.
On peut peut-être faire un petit break avant d'entamer.
Oui, d'accord, c'est une bonne idée. Donc une pause avant la discussion. Oui, il est donc. Moi, comme ça, je propose que nous revenions ici à peu près 5h15.
Voilà.
10 minutes.
Merci.
Merci.